Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est l'un des récits les plus touchants de tout ce que je vous ai raconté. Celui d'Enora Malagré, tiré de son livre « Un cri au ventre » que vous trouverez chez J'ai lu. Peut-être est-ce que vous ne connaissez pas Enora ? Elle est célèbre pour avoir participé pendant des années à l'émission de Cyril Hanouna sur C8. Elle a fait aussi de la radio, joué au théâtre. Et un jour, elle a révélé qu'elle souffrait d'endométriose. C'est une maladie taboue parce qu'elle est très intime. Et elle le raconte de manière assez crue, comme personne n'en a jamais parlé. C'est une maladie de femme que les hommes ne connaissent pas. En tout cas, c'était mon cas. Elle sera là, bien sûr, tout à l'heure pour le débrief. J'ai écrit cette histoire avec Tuc Duhal de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'ai dit la vérité en février 2017, dans un prime de l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. Ce soir-là, il était question de dire la vérité. Un internaute m'a posé une question très intime. J'ai décidé d'y répondre franchement.
T'as l'air amoureuse. Alors, à quand un enfant avec Doumé?
Alors,
c'est un peu tôt. Allez, il faut dire toute la vérité.
Alors, c'est un peu tôt déjà. Et moi, j'ai un petit souci. C'est le problème de la vérité. C'est que moi, j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose. Ah. Et j'ai d'autres soucis. Et c'est compliqué d'avoir des enfants pour moi.
Ce soir-là, j'ai accouché de ma douleur. Je suis né en 1980 à Morlaix, en Bretagne, dans une famille où la maladie régnait en despote depuis des générations. Quand j'étais petite, les mamans de mes amis les emmenaient à l'école. Eh bien, la mienne restait parfois au lit. L'endométriose, déjà, à une époque où on n'en parlait pas. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis un accident. Parce que quand elle est avancée, cette maladie compromet sérieusement les chances d'avoir un enfant. J'en sais quelque chose, moi ça fait 10 ans que j'échoue. Et pourtant, ma mère, après d'innombrables fausses couches, a fait mentir les statistiques. J'ai grandi à Concarneau, dans le Finistère Sud, à 100 mètres de chez ma grand-mère maternelle, mamie Paulette. Elle était tout pour moi. C'était une femme indépendante et rebelle. Elle se revendiquait l'égale de mon grand-père bien avant 68. Et d'ailleurs, c'est lui qui était au fourneau et lui qui débarrassait la table. Elle portait des pantalons et elle remettait les emmerdeurs à leur place. Et elle aussi avait la maladie. Enfant, je ne savais pas de quoi ma mère et ma grand-mère souffraient. Ce que je sais, c'est que moi, toute petite, plusieurs fois, on m'a trempé les pieds dans la fontaine de Saint-Enora à Morlaix. Tout ça parce que la légende veut que Saint-Enora, prostituée de son état, avait reçu l'apparition de Joseph de Saint-Efflam, qui l'avait guéri de la stérilité en lui baignant les pieds. Espoir quand tu nous tiens. Jusqu'à l'âge de 28 ans, je vis heureuse comme une vraie petite branleuse. Je me trouve belle avec mes seins dressés qui semblent défier la mode, mes fesses rebondies sur lesquelles on pourrait dîner à deux, mes longs cheveux sauvages, mon ventre plat, mes cuisses musclées. Je me trouve jolie et je me sens tellement libre. Et puis, à 28 ans, à l'époque je suis animatrice sur Radio Nova et à RTL 9, un soir, sans préavis, la maladie me casse les jambes. Je transpire. Ça y est, la voilà qui approche. Une chaleur sourde qui me monte à la tête. On cogne sur mes tempes. Alors je me lève, je mets n'importe quelle chanson de Nick Drake. Ça va me calmer, comme un pansement.
Betty came by on the way. Said she had a word to say.
La première morsure arrive. Un coup de croc au niveau des ovaires. À droite, à gauche. Je manque d'air. Dans mon ventre, en bas, ça crie. Des cris aigus. Je m'allonge sur le sol, sur le dos. Je manque d'air. Coup de couteau dans mes reins. Je me replie en position fœtale, je manque d'air. Je bave, j'ai chaud. Ça crie dans mon crâne. Je crie aussi, je réponds. La douleur se diffuse, elle attaque mes jambes. Ça brûle, je hurle. Ah ! Les contractions commencent. Au milieu, coule le sang de mon vagin chagriné. Je rampe jusqu'aux toilettes. Je suis une larve malodorante et sanguinolente. C'est loin, putain ! C'est loin ! Je fais une pause. Nouvelle contraction. Je saigne. Mon jean est trempé. Je laisse une trace sur le parquet. Je vomis. Je reprends ma route vers les toilettes. Je transpire. Je me hisse sur les toilettes. Une contraction, je pousse. Je me vide de mon sang. Je pousse du sang. J'accouche de sang. Je remets ma culotte. Je m'allonge par terre. Je rouvre les yeux. Je fonce jusqu'à la salle de bain. Mes médicaments. Mes médicaments. Trouver la bonne drogue. La bonne dose. J'ai gagné. Je vais me doucher. Je vais me laver. Elle est longue, ma course, pour mettre un mot sur ma maladie. Il a fallu 2 fausses couches et des années de douleur pour qu'on pose un diagnostic. Mon gynécologue est passé totalement à côté de ce que je lui décrivais. « Vous devriez aller voir un psychologue, mademoiselle. » Il a dû me prendre pour une hystérique. Le deuxième gynéco que je vais voir, cabinet austère, secrétaire de 230 ans, je lui décris mes symptômes.
« Ah, les bonnes femmes et vos règles, hein. C'est toujours un poème. Hein. »
J'ai dû voir 5 gynécologues avant de rencontrer le bon. Et ce faisant, j'ai perdu 3 ans, ce qui est nettement moins que les 7 ans et demi en moyenne au niveau national. Comment expliquer l'ignorance et l'indifférence du corps médical? Moi, ma chance, c'est d'avoir eu une mère atteinte du même mal. Et donc, à un moment donné, j'ai pu souffler le mot à l'oreille des gynécologues.
C'est pas pour dire, mais je pense que c'est l'endométriose.
D'accord. Je le pense aussi, mais le problème, c'est que ça ne se soigne pas. Il faut prendre des antidouleurs et puis serrer les dents, hein. Et par ailleurs, sachez que vous n'aurez pas d'enfant, hein. C'est terminé. J'ai fini par trouver le bon médecin, bon diagnostic, bonne solution. Je suis possédé par mon désir d'enfant. Au point qu'il m'est arrivé de mimer publiquement le fait d'être enceinte, de glisser un coussin sous mon pull et de dire au gré des conversations
« Eh oui, je suis enceinte. »
Depuis mes 20 ans, j'ai dû pisser 100 de tests de grossesse, juste pour m'entendre le demander à la pharmacienne. À voix haute, distinctement, avec un large sourire, pour qu'elle comprenne que ça serait une jolie nouvelle.
« Bonjour. » Je voudrais un test de grossesse, s'il vous plaît.
J'espérais un miracle, même si la maladie m'a appris à vivre de désillusions permanentes. Aujourd'hui, je suis au bureau, je prépare mon émission de radio, et je sais que je suis enceinte. Mes seins sont plus gros, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai mal au cœur. Ça fait 3 jours que je me dis que je suis enceinte. Alors, détour par la pharmacie.
Bonjour. Je voudrais un test de grossesse, s'il vous plaît.
Retour à la maison. Je déchire l'emballage. J'urine sur le bâtonnet. Positif. Je le savais. Je suis enceinte de 2-3 semaines. Mais je retiens ma joie. Voilà ce que l'endométriose nous vole. La joie. Prépare-toi à souffrir, ma grande. C'est comme un compte à rebours, la fausse couche annoncée. Je sais que je vais le perdre. Je sais qu'il ne va pas pouvoir s'accrocher. C'est terrible de recevoir la nouvelle qu'on attend depuis toujours dans un brouillard d'idées noires. Ce soir, je suis invité chez une amie. Un grand dîner parisien dans un grand appartement du 10e arrondissement.
avec des attachés de presse, des animateurs, des gens qui bossent dans la mode. Oh, Enora, je suis tellement contente que tu sois là. À table, on mange bio. La botte d'asperges en provenance directe du producteur a dû coûter 23 euros. Les serviettes sont brodées, le fromage est truffé, les convives sont intelligents, ils sont drôles, ils sont très beaux. Et puis juste avant le dessert, vient la question. C'est Damien, l'attaché de presse des stars, qui me la pose sans délicatesse. Et toi, Eno, t'as pas d'enfant? Enfin, c'est fou, ça. Je souris jaune et je sers la version censurée. Eh bien non, pas pour l'instant. Oh, pas pour l'instant. Drôle de façon de dire que t'as pas de mec, non? Eh, fais gaffe, hein, Nora. La quarantaine, c'est demain. Si t'attends trop longtemps, ce sera mort. Oh, franchement, tu devrais essayer. Plus t'attends, plus ce sera difficile. La tête me tourne et j'ai envie de hurler. Mais je ne dis pas que je suis malade. La peur de passer pour une fille misérable. Et donc je leur sers ma phrase. En fait, moi, je veux pas d'enfant. C'est pas pour moi. Stupeur et tremblement dans l'assemblée. Ce genre de dîner, j'en vis tous les mois. En société, ne pas avoir d'enfant est une maladie. Quand on est une femme sans enfant, on est hors champ. 8h30. Le réveil sonne. J'ai passé une nuit atroce. J'ai saigné sans interruption. Je me recouche épuisé. 10h15. Oh, je suis en retard. La douche pour me débarrasser de cette odeur de sang. Je suis à peine sorti de la douche que la douleur repart. Il faut tenir, Enora. Il faut tenir. Je n'ai pas le cœur à tapisser ma culotte avec une serviette format XXL. Alors j'enfile le plus gros tampon que j'ai. Midi. Je fonce aux toilettes, mon tampon n'a tenu qu'une heure. Pas le choix, je mets une grosse serviette, une couche. Premier cachet de la maline. 15h. J'ai rendez-vous au Ritz avec une marque de fringues qui veut que je sois son égérie. Je commande un thé. Je reprends un cachet. Les toilettes sont loin. Je finis par craquer. Changement de serviette. 17h. Direction le plateau de Touche pas mon poste. Je me sens sale. L'impression de sentir mauvais. Je passe au stylisme.
Alors, Enora, je t'ai prévu un pantalon blanc. Ça te va?
Un pantalon blanc? Sans blague. Je refuse. 21h. Je dois foncer à la radio pour 3 heures d'antenne. Enora le soir. Écouter la douleur des autres pour calmer la mienne. Passage aux toilettes. Changement de serviette. Je serre les dents. 23h. Je rentre chez moi, ravagé. Quelques shots de rhum, cul sec. Quelques lattes sur un joint. Une fiole d'acupant. Et dodo. Demain, ce sera peut-être pire. Un soir, dans Touche pas mon poste, c'est l'apothéose. J'effectue en direct une chorégraphie de I Am a Slave for You de Britney Spears. Et là, l'endométriose attaque par derrière. La salope attaque mes reins. J'accélère, je me déhanche, le sang coule, mon visage n'exprime rien. Le message est clair. Et pour le coup, la maladie est peut-être une alliée. J'en fais trop. Il est temps de recouvrer ma dignité oubliée. J'entame le chemin qui va me mener jusqu'à la démission. Ne touche pas mon poste. Ma mort médiatique dure 6 mois. Douillette, plutôt tranquille. Le téléphone ne sonne plus. J'ai toutes mes soirées. Je retourne au cinéma, je revois mes amis. Je goûte à la vie. Une vie normale, après 10 ans passés dans un tourbillon quotidien. Même si les gens ne me parlent que de ça.
Oh, Enora, bonjour, pourquoi vous êtes partie? Vous allez revenir?
Un matin, on me propose de jouer dans une pièce de théâtre.
Oui, les montagnes russes, d'Éric Assous. Ça serait au théâtre Édouard VII. L'histoire d'une fille qui cherche son père, ça. Ça te dit ?
Et c'est comme ça que la lumière revient. Celle qui apaise, celle qui réchauffe, juste ce qu'il faut. Pour une autre pièce, quelque temps plus tard, je dois aller essayer des costumes dans un hangar du 20e arrondissement, où sont entreposés la plupart des costumes de théâtre. Oh, ça sent la vieille fripe. J'enfile une culotte à froufrou, des bas, un corset, et j'ai la nausée. Je ne vois que mon corps bourré de lamaline et suant de rhum. Et là, Pascal, la costumière, m'apporte une robe.
Tiens, Elora, essaye cette robe rouge. Ça fait des années que j'essaye de la faire porter à quelqu'un. J'ai jamais trouvé la bonne comédienne.
Je hais le rouge. Le rouge, c'est le sang entre mes jambes. Alors je l'essaye sans conviction. Je m'approche du miroir.
Oh ! Une apparition !
Cette robe me fait l'effet d'un électrochoc. Je me regarde et pour la première fois, je vois tout. Les rides au coin des yeux, mais ils sont toujours bleus. Mes bras un peu mous, mais... rigolo, une femme de 38 ans à qui je décide ce matin-là de pardonner. Le temps de la souffrance et de la contrition doit cesser. Bonjour à toi, petit corps abîmé. Il est temps de te réparer. Viens, viens, on va danser.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Depuis trois semaines, tout mon entourage se demande pourquoi je souris constamment. Je suis enceinte. Ça n'est pas la première fois. Je connais le duo infernal, fausse couche, vraie angoisse. Mais cette fois, j'y crois. Mon corps réagit différemment. J'ai des nausées. Mes seins font la taille des monts d'arrêt. J'ai la peau grasse. Alors naïvement, je me dis, ça tiendra. Et donc, pleine d'espoir, je me rends chez mon gynéco pour la première échographie. Sur la table d'examen, je souris. J'écarte mes jambes.
Voilà, ne bougez plus, détendez-vous.
Je laisse la sonde pénétrer dans mon vagin. Le médecin fronce les sourcils et nos regards se croisent.
Je ne vois rien dans l'utérus. Hein.
Il y retourne, il cherche encore.
Ah, ça y est. Malheureusement, on le fait coincer dans la trompe droite. Hein. C'est une grossesse extra-utérine.
Je suis sonné. C'est un deuil qui commence.
Did I see you down in a young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain.
On vient de faire l'amour. C'était merveilleux. Mais j'ai une petite douleur dans le bas-ventre. Je passe la main à l'entrée de mon vagin. C'est rouge. C'est la couleur dont j'ai horreur. C'est le malheur systématique. Une fausse couche. Encore. La nuit est rythmée par les douleurs, des sortes de contractions. Mais la mort prend son temps. Et au matin, je n'ai pas expulsé. La journée qui commence, je la connais par cœur. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement plein de lumière et d'espoir. C'est un sanctuaire paisible. Je veux le préserver des mauvaises ondes. Je ne me livrerai pas ici à mon rituel mortuaire. Je vais aller à l'hôtel.
Allô, bonjour. Je voudrais réserver une chambre. Oui, pour tout de suite.
La chambre est un peu miteuse. Les murs sont tapissés de fleurs vertes et jaunes. Les meubles sont le vieux bois. Et la salle de bain est équipée d'une baignoire. C'est tout ce qui compte. Je sais quoi faire et comment le faire. C'est la quatrième ou la cinquième fausse couche. J'ai arrêté de compter. La cérémonie sacrificielle commence. Je pose une serviette au pied de la baignoire, une autre imbibée d'eau fraîche au niveau de ma tête. J'ôte mon pantalon, je m'allonge par terre. Elle va revenir. Je la sens. Ça y est, elle est là, la grosse contraction. J'ai mal. Un cri m'échappe. J'ai chaud. Je transpire. Je m'éponge le front avec la serviette humide. J'ai les yeux rivés au plafond un court instant. J'ai l'impression de tenir la main de toutes celles qui sont passées par là avant moi. Femmes de tout pays, de toutes couleurs, de tous les temps. Plutôt que de m'asseoir sur les toilettes, ma technique consiste à monter dans la baignoire. Je m'accroupis en me retenant à la faïence et je pousse 4 fois. Et à la 4e poussée, je le sang qui jaillit de mon vagin. Je sors de la baignoire, je rince le sang, je regarde le sac disparaître dans la canalisation et je vais m'allonger sur le lit étranger. Et mes larmes se mettent à couler, comme tout le sang que j'ai perdu, sans fin, comme la tristesse qui m'habite. Il y a quelques années, j'appelle Cyril Hanouna en pleine nuit. Je viens de faire une fausse couche. Dis-moi, Cyril, c'est possible que je vienne pas ce matin ?
Que tu ne viennes pas ? Oh non, c'est pas possible, ma chérie.
Je me rends donc au boulot à 5 heures du matin. Une serviette épaisse dans la culotte et le ventre déchiré. Je serre les dents toute la matinée. J'ai mal. Je suis ravagé par la tristesse. Mais rien. Rien n'apparaît à l'antenne. Les humains ont cette capacité d'encaisser les pires horreurs en jetant un voile bien opaque dessus. Voilà 3 semaines que j'ai fait ma dernière fausse couche. Je pensais être remise et je me rends compte que ça n'est pas le cas. Je sens comme un épais manteau noir sur mes épaules. J'ai les yeux rivés vers le sol. J'ai la respiration saccadée. J'ai envie de me faire mal. Ça fait 3 semaines que le sang coule en quantité astronomique entre mes jambes. Je suis déchiqueté de l'intérieur. J'ai mal de manière continue, sans une minute de répit. Je suis tellement épuisé que je me tape la tête contre les murs, que je me griffe le ventre comme si je voulais en détourner la douleur. Et ce soir, j'ai envie de boire. Boire! Bois ! Et c'est ce que je fais. Une bouteille de vin blanc. L'ivresse me gagne, l'anesthésie aussi. Pour la première fois depuis 3 semaines, je m'endors, sans douleur. Triste fille. 3 soirs de suite, je bois des litres d'alcool pour étouffer mon infinie tristesse. Et un soir, je suis tellement parti qu'on me vole mon sac que j'ai posé sur le parvis du Trocadéro. Plus de clés, plus de cartes, plus de portable. Le lendemain, au réveil, douche froide, remise à niveau, reset. Je dois stopper cette spirale destructrice. Arrêter de plonger, de nager en apnée dans la merde. Chaque enfant, chaque adolescent que je croise est une souffrance. Je leur caresse la tête. Je pourrais être leur mère. C'est pathétique. Mais les démons sont à ma porte. Je recommence à sombrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en prends assez vite conscience. La mauvaise, c'est qu'il m'arrive encore de boire. Augmenter la fréquence de mes séances chez le psy. Faire plus d'exercices de respiration. Pour mieux contrôler mes hormones capricieuses. Il faut que j'arrive à faire la part des choses entre mon endométriose et mes pulsions d'autodestruction. Qui était là le premier? Qui est responsable de l'autre? Je mélange mes souffrances, mais elles sont toutes à moi. La boisson est désormais bannie de mon appartement et de mes soirées.
Hé, hey, Nora, t'as pas une bouteille quelque part? Eh non, j'en ai pas.
J'ai décidé de ne plus faillir. Je ne peux plus. Cette fuite lâche n'est pas celle d'une femme libre. Je pense à ma mère, qui malgré ses années sanglantes, n'a pas sombré dans la dépendance pour autant. Un 20 juillet, jour de mon anniversaire, je pose le pied au Sénégal, dans un petit hôtel au bord de la mer, à Las Aumônes. Et là-bas, je parle encore et encore avec des femmes. Et elles finissent par me poser la fameuse question.
« Pourquoi tu n'as pas d'enfant ?»
Je leur explique ma maladie, tout ce sang qui coule à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'une d'elles, timide, me révèle entre deux gorgées de thé qu'elle aussi perd beaucoup de sang et qu'elle a très mal. Dans mon égoïsme de femme blanche parisienne, je n'avais jamais pensé à la réalité de toutes les autres, dans le monde. Cette jeune femme a recours à des décoctions et à la prière.
Oh, le diable est dans la maladie.
Elle n'a pas les moyens d'acheter des protections hygiéniques.
Oh, je mélange de l'argile avec des bouches de vache. Et je tapisse le fond de ma culotte. Eh oui.
Combien d'entre nous bourrent-elles leurs culottes de papier toilette? Au Sénégal, je visite un orphelinat. Et là, je trouve des réponses. En plongeant mon regard dans les yeux des enfants, en restant assise des heures et des heures sur le perron, en regardant les petits aller et venir. L'adoption sera ma prochaine aventure. Celle de ma vie, la plus jolie. Avec mon utérus malade et mes jambes bancales, nous sommes prêts désormais à vivre la deuxième moitié de notre vie. Histoire tirée de votre livre, Enora Malagré, un cri du ventre que l'on trouve aujourd'hui chez J'ai lu.
Je suis très très émue, pardon. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci.
Est-ce que ça vous a fait du bien de faire ce livre?
Alors oui, ça a été la fin de ma psychanalyse.
Il y a eu une psychanalyse?
Oh, si longue. Si longue. Donc j'ai fait beaucoup d'économies depuis ce livre. ça a été salvateur, bien sûr. Le nom est assez bien trouvé, je me félicite, c'est vraiment un cri du ventre. Mm-hmm. J'avais besoin de le crier de cette façon, avec ces mots-là, que vous avez si bien retranscrits.
C'est cru, hein?
C'est très cru, parce que c'est aussi
Pourquoi
cru que la maladie l'est. J'avais, moi, pas vraiment lu d'ouvrage sur cette maladie. En tout cas, pas d'ouvrage où je me sentais concernée. Je ne me retrouvais pas dans les récits sur cette maladie. Alors, j'ai évidemment décidé de raconter ce qu'était le quotidien véritable de cette maladie. Alors, d'une part, pour aider les jeunes filles ou les femmes à identifier la maladie. Et d'autre part aussi pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas une simple douleur de règles. C'est une maladie chronique, invalidante, qui empêche réellement de vivre comme tout le monde.
Vous avez eu beaucoup de retours de femmes, j'imagine?
Oui, ça a été au-delà de ce que je pouvais penser. Je suis très très fière. Je crois avoir aidé certaines. Et en tout cas, je suis sûre d'avoir libéré en tout cas la parole sur le quotidien, cette maladie. Je suis très contente d'avoir fait ce bouquin, c'est sûr.
Sans entrer dans votre intimité, si ça vous emmerde, vous pouvez m'envoyer bouler. où en êtes-vous de votre projet d'adoption ?
Alors, on attend vraiment, avec mon compagnon, le dernier moment pour entamer cette aventure, c'est-à-dire de vraiment avoir tout tenté, je dirais,
Il vous reste un espoir ?
Non.
Comme votre mère ?
Ouais. Il me reste, ma mère, entre guillemets, malheureusement, nourrit cet espoir, quoi. En voyant effectivement
même le parcours
de ma mère, ouais, même aujourd'hui.
Et vous y essayez encore, Edouard.
Voilà. Mmh. Donc, je vais le faire jusqu'au bout. Là, maintenant, j'ai 40 ans, donc il y a vraiment un dernier espoir. Oui. Et ce qui est très compliqué quand on part sur l'adoption, qu'on soit une femme endométriosique, je sais pas comment on dit, ou pas, c'est qu'on quitte quand même un chemin de croix compliqué pour en trouver un autre.
Oui.
Parce que l'aventure de l'adoption n'est pas simple non plus. Mais je pense que c'est plutôt vers ça que je me dirige et je ne vais pas tarder à entamer les démarches très concrètement.
Au début de l'histoire, vous évoquez votre maman et votre grand-mère qui sont atteintes de la même maladie. À partir de quel moment est-ce qu'elles posent le mot d'endométriose sur ce qui leur arrive ?
Alors, je crois ma grand-mère jamais.
Pour votre grand-mère, c'est quoi alors ?
Nous, on l'a su après.
Elle appelle ça comment à l'époque ?
Elle pensait que c'était juste des douleurs de règles.
Des règles douloureuses.
Oui, et c'est lorsque sa fille en a été atteinte qu'elle a finalement compris ce qu'elle avait eu pendant tant d'années. Mais elle était déjà ménopausée, donc elle n'avait plus ses douleurs.
La ménopause, ça s'arrête.
Voilà. Donc je ne vous dis pas à quel point j'attends impatiemment cette ménopause.
Vous êtes la seule femme de France.
La seule femme de France qui vraiment attend ce moment comme au pied du sapin.
Oui.
Donc je pense que pour ma grand-mère, du coup, jamais. Et ma mère, grâce à quand même un entourage déjà un peu plus alerté sur ces questions, l'a découvert. Mais pour autant, maman n'en parlait pas.
C'est-à-dire qu'un mot, un médecin a posé le mot endométriose sur la maladie de votre mère.
Oui, mais
vous
très...
Vous savez à quelle époque ?
Oh là là, je pense que c'était déjà très tard.
Ouais.
C'était déjà très tard, je crois que ça a été après ma naissance.
Mmh.
Mais jusqu'alors, elle n'avait pas eu de diagnostic. Et en plus, très rapidement, c'est-à-dire après moi, la maladie était tellement étendue qu'elle a dû subir une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus. Qui règle la question, oui. Alors, sauf que, il faut quand même le dire, hein, pour les femmes qui nous écoutent, l'hystérectomie n'est pas un remède à l'endométriose. Mais parfois, effectivement, retirer l'utérus peut éviter la propagation de l'endométriose. Mais c'est en aucun cas un remède. Et c'était une autre époque. On pensait qu'en retirant l'utérus, ça soignait l'endométriose. Vous voyez, c'était un autre temps.
Donc, c'est une maladie héréditaire.
Alors, non.
Ah, c'est le hasard.
Je vais vous dire la vérité, Christophe, on ne sait pas d'où ça vient. Et surtout, il n'y a toujours pas de traitement, on ne guérit pas de l'endométriose aujourd'hui en 2021. C'est pour ça qu'il faut des sous pour la recherche, par exemple. Il n'y a aucun remède. On nous accompagne avec cette maladie, ce qui nous permet de mieux vivre, par exemple la pilule en continu, par exemple certaines interventions chirurgicales, mais en aucun cas on ne guérit aujourd'hui de cette satanée maladie.
Votre maman vous appelle Enora à cause de Sainte Enora, qui a donc été guérie de la stérilité.
Oui, tu parles alors.
C'est fou ce qu'elle vous fait porter alors, par ce prénom
sur les épaules. C'est ce qu'on se dit maintenant en souriant, mais voilà, quel cadeau, quelle pression pour le merveilleux résultat qu'on connaît. Donc on en rit maintenant parce qu'il faut aussi en rire. Il ne s'agit pas d'être toujours dans la plainte et être victime, justement. Ne laissons pas la maladie gagner. Mais c'est vrai que parfois, dans les dîners familiaux, c'est une vanne qui revient très souvent. Ça, c'est sûr.
Votre maman, je suppose qu'elle est la première que vous informez lorsqu'à 28 ans, vous avez votre première crise.
Oui. D'ailleurs, elle m'avait déjà alertée un peu avant, quand je lui avais déjà fait part de nouvelles douleurs de règles, que je n'avais pas auparavant, lors de ma puberté ou autre. Et c'est elle qui m'avait déjà glissé ce mot à l'oreille que je n'avais évidemment pas ni écouté, ni entendu, que j'avais vraiment balayé du revers de l'indifférence. Et puis là, après la deuxième fausse couche, je l'ai écouté avec un peu plus d'attention.
Entre votre puberté et ces 28 ans...
Tout était normal.
À aucun moment, vous n'avez cette hantise ?
Rien. Non, parce que d'une part, on n'en parlait quand même que très peu avec ma mère. Et c'est une maladie qui peut frapper à tout moment. Quand votre fille aura ses premières règles, ça peut frapper à ce moment-là.
Tout de suite.
Ça peut frapper tout de suite à ce moment-là. Ouais. Et ça peut frapper à 40 ans. Ça peut frapper après un premier enfant, après un deuxième enfant, après un troisième. C'est ça le problème avec cette maladie. Il n'y a pas de règles.
Alors, vous racontez votre parcours de 3 années chez 5 gynécologues avant d'avoir le bon diagnostic. Ça veut dire que aujourd'hui, encore en France, il y a des gynécologues qui ne savent pas ce qu'est l'endométriose.
Oui, il y a une vraie errance à ce niveau-là. Je pense qu'alors, maintenant ça va beaucoup mieux depuis que, justement, nous faisons beaucoup de bruit autour de cette maladie, que des associations
se sont... Mais c'est pas vous qui avez alerté les gynécologues, quand même.
J'en ai fait partie, alors je suis pas toute seule, mais avec mes collègues Laetitia Milot, Imani, etc. C'est vrai qu'on les a pas tellement lâchés. Moi, j'ai assisté, par exemple, à des cours dans une certaine faculté parisienne, renommée, que je ne citerai pas, où le cours d'endométriose n'était pas obligatoire, et sur un amphithéâtre de 250 étudiants, il n'y en avait que 30 qui assistaient à ce cours. C'est vous dire l'indifférence autour de cette matière. Nous sommes un peu en retard par rapport à nos collègues allemands, ou nos collègues israéliens, ou nos collègues américains. On nous parle pas non plus aussi des médecines un peu parallèles, qui peuvent aussi aider les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça bouge vite, ça bouge fort, mais il y a encore du boulot pour que les médecins puissent être un peu plus spécialisés dans cette maladie.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la réalité de cette maladie ou si ?
Non.
Il n'y en a pas ?
Je ne pense pas.
C'est-à-dire qu'il y a des gynécologues qui sont contre ?
Ils ne sont pas contre, ils ne savent pas. Ils y croient pas. Oui. Ou alors quand on arrive, c'est vrai que la première chose quand on arrive chez les gynécos, je caricature mais à peine, et quand on dit on a des règles abondantes et douloureuses, on s'entend répondre, c'est normal, les règles ça fait mal. Alors les règles c'est un peu douloureux, mais pas à se damner à ce point, pas à s'évanouir, pas à vomir, pas à en avoir la diarrhée. Ça c'est pas normal.
Alors, je vous avoue que moi, en tant qu'homme, j'avais vaguement entendu parler de cette maladie, d'ailleurs essentiellement au moment de la sortie de votre livre, mais en vérité, je n'en savais rien. C'est le cas, je pense, de la plupart des hommes.
Oui, c'est le cas de la plupart des hommes et aussi de la plupart des femmes, d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour les hommes...
Bon, déjà, les règles, c'est un truc qu'on comprend pas bien.
Déjà, ça vous dépasse un peu. Mais ce qui est... Mais je vous remercie de parler aussi des hommes, parce que cette maladie, quand on est en couple avec un homme, on la vit à 3.
Vous le dites toujours ? Enfin, là, vous êtes en couple peut-être depuis un moment.
Oui.
Mais vos hommes précédents, entre 28
alors,
et maintenant...
Certains sont partis à cause de ça, il faut le dire. Certains prennent leurs jambes à leur cou, parce que parfois aussi, on a mal pendant les rapports sexuels à cause
et
de cette maladie. Le sang aussi peut couler à tout moment. Et puis, c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un et de, assez rapidement, lui offrir cette intimité-là, qui est assez peu ragoûtante.
Oui.
Alors, certains, évidemment, prennent leurs jambes à leur cou. Mais pour rassurer quand même nos auditeurs, la plupart restent. Il y a beaucoup d'hommes merveilleux qui se battent à nos côtés. Et j'aimerais en profiter pour leur faire un petit coucou amical et pour les remercier de leur patience. Parce que cette maladie, elle envahit le couple et elle le fragilise. Alors pour ceux qui restent à nos côtés, je voudrais dire merci.
Finalement, c'est un test intéressant pour savoir si l'homme vous aime.
Ouais, c'est pas
s'il
mal.
Reste, s'il passe par là avec vous...
C'est que c'est un bon gars.
C'est que c'est le bon. vous racontez que l'alcool, à un moment, a été un refuge. Le rhum, ça m'a...
Oui, alors en bonne bretonne, on aurait pu penser
du chouchen,
mais moi je suis allée plutôt vers le rhum. Non, ça a été terrible. Ça a été
C'était à la fois, vous le racontez très bien, pour lutter contre les douleurs, parce que ça anesthésie, et aussi comme anxiolytique face à une forme de dépression.
Oui, complètement. Alors je crois que j'avais probablement un terrain addictif à la base.
Oui.
On ne tombe pas dans l'addiction par hasard, et je le dis un peu dans le livre, et vous l'avez très bien exprimé en le récitant, je ne sais pas qui est arrivé en premier, quoi, vous voyez.
Mais c'est-à-dire, vous êtes animatrice de télé et de radio, donc normalement, vous picolez un peu, quoi. On est tous pareils, quoi.
Qu'est-ce que j'aime votre honnêteté depuis toujours. C'est sûr qu'on est assez tentés.
Oui.
Mais là, alors là, évidemment, j'avais un peu... On m'a tendu un peu le bâton un peu plus. Non, mais c'est vrai que ça a été un refuge pendant trop longtemps. Et c'est une spirale, c'est un tel anesthésiant. Et puis, en plus, quand j'avais pas vraiment de solution et que je méconnaissais encore ma maladie, et quand les médicaments ne faisaient plus effet, vers quoi on se tourne ?
Vers l'alcool.
Voilà.
Vous avez replongé, parfois.
Plusieurs fois, bien sûr. Non, mais plusieurs fois. Alors,
j'aime
parfois...
votre franchise aussi.
Voilà. Alors, parfois avec délice, et puis parfois avec honte.
Ouais.
Mais là, malheureusement, je ne peux plus boire, du coup. J'ai été trop loin.
Les antidouleurs aussi sont addictifs, parce que vous parlez de la lamaline, c'est un opioïde, la lamaline. Il y a de la morphine dans la lamaline.
Complètement. Et ça, alors là, pour le coup, évidemment, je suis tombée aussi accro à ces saloperies. Alors là, c'est la médecine hein, qui vous tend quand même la drogue.
Mais il ne faut pas souffrir non plus.
Non, non, bien sûr. Mais voilà. Le truc, c'est que ce n'est pas le bon médicament. C'est-à-dire qu'on nous bourre d'antalgiques. Enfin, moins maintenant. Hein, je sais que les médecins ont fait des efforts. Mais moi, je fais partie de cette génération où c'était vraiment un cachet et au lit. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'un cachet, puis deux, puisque ça ne nous fait plus d'effet. Tant la crise, en plus, grossit avec le temps, puisque la maladie s'étend.
Ouais. Elle s'étend.
C'est-à-dire que, alors, pas pour tout le monde, mais moi, en l'occurrence, je n'en ai pas que dans l'utérus, j'en ai dans la vessie, dans les jambes. Donc... Et je ne suis pas la seule à souffrir, à être au stade 4 de cette maladie, le dernier stade. Donc, du coup, plus elle s'étendait, et plus je me prenais de cachet.
Et on arrive à en décrocher facilement ?
Non, c'est très dur. Non, ça pas... Il faut être très solide psychologiquement, il faut être accompagné. Moi, je n'ai pas fait ça toute seule, évidemment. J'ai été accompagnée dans ma vie personnelle par un entourage bienveillant et un petit ami fabuleux, mais par, évidemment, un psy. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je me voyais vraiment partir dans ces addictions-là.
Alors, vous racontez très très bien la pression sociale pour avoir un enfant, qui est une pression que toutes les femmes ont à peu près connue, toutes celles qui n'ont pas trouvé un copain à 17 ans et qui n'ont pas épousé à 23, elles ont connu ça. Vous avez coiffé Sainte-Catherine à plusieurs reprises, comme on dit. Et vous répondez, évidemment, c'est pas fait pour moi. Le problème, c'est que vous avez une envie profonde à côté de ça. Parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants.
Mais complètement. Et je crois que c'est très important aussi d'arrêter de penser que notre utérus appartient à tout le monde. Ça ne pose jamais la question à un homme. Eh bien, nous, qu'on ait envie d'avoir des enfants ou pas, il y a forcément un moment où notre utérus fait l'objet d'une discussion. C'est quand même hallucinant. Pardonnez-moi, les testicules des garçons ne font pas l'objet de discussions à table.
Dommage.
Dommage. Mais oui, ce serait peut-être un peu réjouissant
aussi.
Oui,
c'est vrai, vous avez raison.
Non, mais c'est complètement dingue. Et donc, effectivement, moi, par honte et par pudeur, je préférais dire que je n'en voulais pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était un peu bizarre. En tout cas, il se trouve que moi, personnellement...
Vous en avez envie.
J'en ai envie. Mais alors, c'est chevillé au corps. Et c'est un drame absolu pour moi. Il n'y a pas un jour encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, où je ne me réveille pas le matin en espérant que ça va m'arriver. C'est le drame de ma vie.
Et vous avez la certitude, parce que c'est une vraie question ça qui n'est jamais posée, qu'un enfant adopté sera votre enfant. Parce qu'on a le droit de dire non, ça aussi. Il y a des tas de femmes qui ont adopté et qui n'ont pas osé reconnaître que, eh ben non.
Que c'était plus difficile.
Oui.
C'est vrai que c'est un sujet tabou qui mériterait
aussi
une longue émission. Je suis d'accord avec vous.
J'ai fait déjà.
Ça ne m'étonne pas de vous.
Ouais, ouais.
Eh bien bravo, parce que c'est un immense tabou pour ma part.
Vous avez cette certitude.
Oh mon Dieu, elle est dans mon ventre, alors que je ne vais pas le porter.
Je suis très heureux d'avoir porté votre récit, Nora Malagré, tiré de ce livre Un cri du ventre, aux éditions J'ai lu désormais.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.